au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Édition de ce 27 novembre. Martin Ducharme, du directeur général du club de golf de Berthier, sera avec nous. On aura également Hélène Bégin, économiste experte à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Julie Paquette, vice-présidente Nouveau Monde Graphite, viendra nous parler de nouveaux marchés pour son matériau. Arthur Fortin, président du regroupement des locataires des terres publiques, nous parlera de ce qu'on appelait avant, vous savez, les fameuses terres du gouvernement, là. Et Jacques Plante nous parlera de la carte de crédit des différents ministères. Ça va bien quand c'est pas ton argent. Mesdames, messieurs, bonne émission. Eh bien oui, encore une fois aujourd'hui, je remplace le collègue Claude Fournel qui en est à la préparation des chansons de Noël, du buffet de Noël. Je pense qu'il est dans le coin des bûches de Noël au moment où on se parle. Alors j'ai le privilège de vous parler aujourd'hui. J'espère que ça va bien pour vous en ce jeudi. C'est, on le sait, notre ami Alain là, on en a parlé ce matin. C'est la journée de la paix. C'est toujours bien agréable. Et comme ça, on aura des sujets extrêmement intéressants aujourd'hui. Entre autres, le premier qui parle du club de golf de Berthier qui ne rouvrira pas ses portes avant 2027. Tenez-vous bien. Il faudra donc une autre année pour compléter la cure majeure de rajeunissement des installations entreprises, il faut le dire, il y a 2 ans, et qui doit transformer vraiment de bout en bout le club de golf en un important outil de développement économique et touristique. Notre collègue Régent Turgeon a rencontré le directeur général du club, Martin Ducharme.
Le club de golf de Berthier doit être fermé depuis plusieurs mois, on peut même avancer une couple d'années. Il est en pleine mutation. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent?
Il y a beaucoup de rénovations qui est en train de se faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire aussi. Et maintenant, on va attaquer ce qui est le pavillon. Donc, le but principal de toutes ces actions-là, c'est de pouvoir redonner ses lettres de noblesse et pouvoir redonner aussi un endroit où la société, les gens de la région vont pouvoir profiter aussi des installations. Ça aussi, c'est important. On le fait pas pour notre besoin personnel, bien au contraire. On veut redonner dans la société. On veut avoir un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer, fraterniser, organiser des activités de financement, des activités sociales. Il va y avoir des réceptions, des grandes réceptions. On veut bien se positionner au niveau touristique dans Lanaudière et on veut se positionner au niveau touriste d'affaires. Ça, c'est très important. Là, c'est une des niches importantes là, qu'on va aller... qui fait partie un peu là, de notre but.
Les rénovations, ça s'imposait parce que c'est quand même pas un jeune club, là.
C'est pas que ça s'imposait en tant que tel. Le club de golf de Berthier a toujours eu ses lettres de noblesse. Par contre, les nouveaux propriétaires ont une vision différente de pouvoir lui donner ce qu'on peut dire, le faire grandir dans la noblesse. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça a amené ces rénovations-là. Il y avait des nécessités aussi au niveau de l'irrigation, au niveau de la qualité du gazon, tout ça. Donc, ils ont mis l'épaule à la roue avec l'excellente réputation de Martin Genet comme surintendant. Ça, c'est très important. Et puis, à ce moment-là, bien, on va arriver à un produit final qui va être extraordinaire.
Est-ce qu'on peut parler d'un club privé entièrement avec membership ou effectivement ça sera ouvert au public? Là, vous parlez de réception, mais si moi, dans le public, je suis pas membre, est-ce que je peux venir jouer ici?
Au moment où on se parle, moi, ça fait 2 semaines que je suis en poste. Okay. Je peux pas vous mentionner aujourd'hui si on s'en va dans une direction qui va être entièrement privée. Par contre, je peux vous dire qu'on s'en va dans une direction où la population qui va avoir accès à cet endroit-là, ça va être unique au Québec. Ça n'existe pas. Là où on veut aller, on veut créer quelque chose qui est très différent de ce qui existe présentement, avec un service très professionnel et surtout où on va bien se sentir. Le bien-être va être ce qu'on peut dire là en haut de liste. Pour nous, là, c'est ce qui est le plus important.
On avait déjà annoncé dans le passé, sans peut-être véritable certitude, une réouverture possible pour 2026. Est-ce que cet échéancier-là tient toujours?
J'ai pas encore l'échéancier en tant que tel, mais entre vous et moi, je sais que ça va rester confidentiel, mais on parle plus de 2027. Parce qu'on a beaucoup à faire encore. On a beaucoup d'améliorations à apporter aux installations. Et à ce moment-là, lorsqu'on veut ouvrir, lorsque il va venir le temps de pouvoir ouvrir la porte à tout le monde, ça va être important d'être prêt. Et on veut pas ouvrir non plus dans une façon où on est encore en train de faire toutes sortes de choses à droite et à gauche. On veut être dans le confort. On veut être dans le bien-être.
On a senti dans vos propos tantôt que la rénovation, ben, ça va être un gros plus pour le développement économique et touristique de Berthier et la région. Mais ça reste quand même un beau défi pour vous parce qu'il faudra rentabiliser ce qui aurait été un investissement quand même très majeur, là.
Effectivement, effectivement. Mais je vous le dis, la priorité, c'est le bien-être. La priorité, c'est de se faire une place sociale à ce moment-là parmi la population et c'est de mettre Berthier sur la map comme étant un parcours de golf unique au Québec où les gens vont retrouver quelque chose qui n'existe pas. Et c'est le but principal, c'est d'avoir quelque chose d'unique.
Est-ce qu'on est confiant d'attirer, un, les golfeurs, mais deux aussi, retrouver tout le personnel qu'on avait qui travaillait ici, là, déjà plusieurs mois?
Ça, c'est un point très important. On va devenir un endroit majeur en création d'emplois, que ce soit au niveau des employés de parcours de golf, des employés de service, des employés de la boutique, des employés de la restauration. Ça, c'est quelque chose, là, ça fait partie de mes priorités. Et je caresse un rêve depuis plusieurs années, c'est de pouvoir faire en restauration une école. Et ça, ça va être complètement nouveau. Je vais travailler étroitement avec la commission scolaire, étroitement avec l'ITHQ, pour pouvoir mettre en place ici une école de restauration. Ce qui fait que les gens vont venir apprendre avec des professionnels, tout en travaillant et tout en n'étant rémunéré. Et ça, c'est important. Et moi, je veux faire découvrir les talents régionaux. Je veux travailler avec des produits régionaux aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, le talent et les produits réunis ensemble, c'est la recette gagnante en restauration.
Greffe et formation professionnelle, c'est un beau défi, là.
C'est plus qu'un défi, c'est un rêve, mais qui va se réaliser. Parce que présentement, dans mon agenda, j'ai plusieurs rencontres de prévues et je suis persuadé que je vais atteindre mon but. Et lorsqu'on va se rencontrer dans 5 ans, vous allez dire, Martin, tu as réussi ce que tu voulais faire avec une restauration qui est reconnue maintenant à travers la province et qui va en faire un tremplin de formation, que ce soit en pâtisserie, en mets spécialisés, en boucher, peu importe, on va aller chercher tous les sphères de la restauration pour satisfaire une clientèle et bien se positionner au Québec, au Canada et en Amérique.
Voilà que des bons vœux, mesdames, messieurs. Petite note à Martin Ducharme, il y a d'excellentes écoles d'hôtellerie dans Lanaudière, en Joliette, il y en a aussi ailleurs. Alors peut-être avant d'aller à l'ITHQ à Montréal, peut-être vous adresser aux écoles du coin qui font d'excellents professionnels. Je vous rappelle que on semble se diriger vers un club privé du côté de Berthier. C'est du moins ce qu'affirmait l'un des propriétaires, là, il y a un an à peu près, Monsieur Payet, qui est l'un des propriétaires, avait dit que ce serait un club dispendieux avec un parcours dispendieux. On voulait percer le top 10 des clubs qui s'adressent à une clientèle plus fortunée. On donnait même des exemples. On disait que les coûts d'adhésion pourraient tourner autour de 10 000 $. Une centaine de personnes auraient déjà montré de l'intérêt à devenir membre. Je parle de Jean-Claude Payet qui avait fait ces affirmations-là il y a un an à peu près. On vous rappelle que les travaux qui ont été mis en marche, que c'est la firme d'architecte Uxam qui a dessiné des dizaines de terrains de golf à travers le monde, même compagnie qui est derrière les parcours de la Tempête à Québec et de Fontainebleau à Blainville. Alors, ça risque d'être un très, très beau terrain de golf. Moi, j'ai hâte de voir ça d'ici 2 ans. On aura dans un instant Hélène Bégin, elle est économiste experte à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IG à Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la!
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Sentra S Plus 2025 en location 60 mois pour seulement $77 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Chez JM Sport Saint-Gabriel, découvrez la puissance et la fiabilité légendaire des VTT Honda. Pour le travailleur qui exige le meilleur, Honda offre performance et durabilité à chaque départ. JM Sport Saint-Gabriel, votre accès nature toute saison. 450-835-3407.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Marceline-de-Kildare, La Noraine, Saint-Damien, Raden,
CFNJ, 99.1-88.9.
Au 99.1-88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Michel Arnois. Lanaudière PM, immobilier.
Il est 16h20, vous êtes toujours en direct du studio Joliette Nissan. Il y a une étude qui confirme que les jeunes ont de moins en moins accès aux maisons unifamiliales et Lanaudière n'y échappe pas. Le prix des unifamiliales, madame, monsieur, est passé en moyenne de 210 000 $ en 2015 à, tenez-vous bien, 500 000 $ en 2025. Ça a plus que doublé. Il y a Pierre Jumainville qui s'est entretenu avec Hélène Bégin, l'économiste experte à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.
Alors, Mme Bégin, vous tracez un bilan pas très rose sur l'abordabilité résidentielle?
Oui, effectivement. C'est que on a regardé par rapport à il y a 10 ans comment s'est comportée, dans le fond, la capacité des ménages au Québec à acheter une propriété résidentielle. Ce qu'on constate, c'est que depuis 10 ans, le prix médian des maisons unifamiliales a plus que doublé dans la plupart des régions, incluant celle de la Naudière. Alors que la hausse des revenus des familles a été plus de l'ordre de 15 à 20 %. Et du côté de la Naudière, là, c'est à peu près le même rythme qu'on a observé. Donc, autant au Québec que dans la Naudière, je pense que les tendances ont été relativement semblables. C'est que la capacité d'acheter une propriété s'est beaucoup détériorée au fil des 10 dernières années.
Plusieurs points ressortent de votre étude, mais on doit constater que les jeunes sont de plus en plus exclus du marché de l'unifamilial, par exemple.
Oui, exactement. Dans le fond, si on regarde la plupart des marchés, dont la Naudière, les maisons les plus en demande, si on peut dire, c'est les maisons avec un prix un peu plus accessible, si on peut dire, pour les premiers acheteurs. Et il y a beaucoup moins de maisons dans les catégories de prix un peu plus accessibles. Et si on regarde notamment pour la mise de fonds, donc c'est comme un peu l'obstacle principal pour les premiers acheteurs, ce qu'on remarque, c'est que la mise de fonds là, dans la Naudière a augmenté d'environ 15 000 $ depuis une dizaine d'années pour atteindre 25 000 $ cette année. Donc, on parle d'une mise de fonds minimale de 5 %. Donc, c'est quand même des sous à amasser au fil des années. Et le délai pour l'amasser, en supposant que les familles ou les couples arrivent à économiser environ 5 % de leur revenu net, la mise de fonds prend environ 5 ans à amasser. Là. Donc, c'est un petit peu plus... En fait, c'est près du double d'il y a 10 ans. Donc, c'est la patience est de mise. Il y a peu de produits sur le marché et les prix sont quand même encore fortement à la hausse du côté de la Naudière.
Justement, on parle de quoi? D'une moyenne de 1,5 million $?
Exactement. Un prix médian de 500 000 $ pour la région de la Naudière. Donc, c'est pratiquement le même qu'au niveau provincial. Et je vous dirais que depuis l'an passé, le prix des maisons unifamiliales dans la Naudière a augmenté d'environ plus de 10 %. Donc, c'est certain que les prix continuent d'augmenter. On a eu quand même des baisses de taux hypothécaires en 2025, tout au fil de l'année. Là, on parle d'un taux 5 ans d'environ 4 % actuellement, mais ça n'a pas été suffisant pour compenser l'augmentation au niveau des prix, qui a quand même un aspect très, très important. Là.
Rien n'indique que ça va s'améliorer non plus.
Ben, à court terme, effectivement, ça serait un peu plus étonnant parce qu'on a l'impression que les taux d'intérêt hypothécaires ne baisseront plus tellement. Ça va plus être un signe de stabilité en 2026. Et du côté des prix, comme je mentionnais, il y a plusieurs raisons qui font que les prix sont sous pression. D'une part, on a construit peu de maisons unifamiliales au cours des dernières années. Donc, évidemment, avec l'augmentation de la population, il y a plus de ménages un peu sur un inventaire très, très, très limité. Également, les personnes âgées qui vivent quand même beaucoup plus longtemps et en santé. Donc, ils ont tendance à conserver leur maison unifamiliale un peu plus longtemps, peut-être qu'il y a 10 ans. Donc, ça joue également de ce côté-là. Donc, quand même, quelques facteurs qui font en sorte que les prix vont demeurer sous pression. On s'attend quand même à ce que les prix augmentent un petit peu moins rapidement l'an prochain. Mais dans l'ensemble, on voit pas d'amélioration importante de l'abordabilité là, à court terme. Là.
Les jeunes optent pour quel type d'habitation actuellement? S'il n'y a rien
général,
dans le résidentiel?
Jeunes, pardon?
J'ai dit, s'il n'y a pas de disponibilité dans le résidentiel familial, quel type d'habitation les jeunes choisissent?
En général, les jeunes vont choisir des produits un peu plus abordables, par exemple des maisons jumelées, maisons arrangées ou encore la copropriété, qui est en général un produit qui est plus accessible aux premiers acheteurs. Et là, il faut quand même être prudent parce qu'au niveau de la loi... Au niveau de la loi 16, les règles ont été resserrées. Donc, lorsqu'on achète une copropriété, maintenant, on est protégé un peu pour avoir accès aux états financiers de la copropriété par l'entremise d'un courtier immobilier qui peut nous guider dans la transaction pour évaluer si les fonds de prévoyance sont suffisants et s'assurer qu'il n'y aura pas de surprise éventuelle dans les augmentations de cotisations prévues. Donc, la copropriété reste un bon produit qui est nettement moins dispendieux que les maisons unifamiliales. Encore faut-il bien évaluer lors de l'achat la santé financière de la copropriété, la gestion Et dans bien des cas, c'est tout à fait conforme. Donc, une certaine prudence, mais quand même un produit. Il y a encore beaucoup de bons produits sur le marché pour la copropriété. Et l'unifamilial, effectivement, est plus difficile d'accès pour la plupart des jeunes ménages.
Le condo, est-il attrayant, toujours attrayant?
Donc, le condo est un peu en perte de vitesse à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est dû justement à la nouvelle loi qui fait en sorte que les copropriétés doivent avoir une gestion financière plus serrée et surtout plus transparente pour les acheteurs. Donc, on a vu dans certaines régions les frais de copropriété augmenter de façon importante là maintenant que il y a comme une loi qui encadre tout ça. Donc, la copropriété est un petit peu en perte de vitesse, mais je dirais qu'il faut être juste plus sélectif dans le produit qu'on achète, s'assurer que la gestion financière est bien tenue. Et ça peut être une option, je pense, à évaluer pour les premiers acheteurs.
C'était Hélène Bégin, elle est économiste, experte association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Pas évident pour un jeune d'acheter une maison aujourd'hui. Il y a quand même des solutions qui sont explorées. De nombreux jeunes, en particulier au Québec, reçoivent une aide financière de leurs parents. Et ça, je vous lève mon chapeau, les parents qui aident les enfants. Il y a divers programmes qui visent à faciliter l'accès à la propriété au Québec. Il y a des partis qui proposent, par exemple, d'abolir la TPS sur certains services liés à l'achat ou d'offrir un congé de TPS sur les maisons neuves. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Bon, il y a évidemment le RAP, le régime d'accession à la propriété, où on peut retirer de l'argent de son REER pour la mise de fonds, avec un remboursement sur 15 ans. Il y a bien des défis. Les jeunes explorent des moyens non traditionnels, comme de louer avec option d'achat, la copropriété avec des membres de la famille, elle en a parlé, ou des propriétés avec des unités locatives. Mais je vous le dis, c'est pas évident à tous les jours d'acheter une maison aujourd'hui pour un jeune. Parce que c'est bien beau de vendre sa maison, 4, 5, 600, 700 000, mais il faut en acheter une autre après. Et c'est pas évident. Et les locataires, les loyers, c'est excessivement cher. Alors bon, on va peut-être se régler. On s'en va vers les informations avec Pierre Jouminville. Il est qualifié de la voix d'or de la radio. C'est pas rien. Dans un instant, Pierre Jouminville.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
J'allais presque oublier de vous faire la circulation. 40 Est, ça commence à ralentir sérieusement du côté de Bourget et ça jusqu'au pont d'étagement du CN. Traversée du pont Charles de Gaulle, c'est lent. Ça se fait bien, mais c'est au ralenti, même de l'autre côté, jusqu'après la rivière L'Assomption. Pont-le-Gardeur, ça traverse bien, quoique assez occupé vers la fin là, du pont-le-Gardeur. C'est sûrement à cause du feu rouge, tout juste de l'autre côté du pont, à Repentigny. 25 Nord, congestion à partir du pont Payan, et ce, jusqu'à l'île Saint-Jean. Et à la 640 des deux côtés, là, c'est vraiment congestionné, et surtout même vers l'ouest. Alors, c'est à surveiller de ce côté-là. Soyez prudents sur nos routes.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard. Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Rendez-vous. Passez dès maintenant au 4164 rue Principale à Saint-Félix de Valois. Lustre Auto, propre, rapide et brillant.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Les grands classiques de Noël et du temps des fêtes seront au rendez-vous tous les jours de la semaine et du week-end. Faites de CFNJ votre radio au bureau, dans votre commerce, en auto, à la maison et au chalet. Vivez pleinement ce temps de réjouissance au son de votre radio dans la Naudière. CFNJ 99.1 88.9, la vraie radio du temps des fêtes.
Concours calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour. festin.
C'est l'heure de rejoindre notre collègue Pierre Jubainville. Écoute, mon cher Pierre, ministre Stephen Guilbeault qui décide de claquer la porte.
Oui, ben claquer la porte, on ne sait pas trop ce qui se passe, là, mais ça doit ressembler à un anti-oléoduc avec l'Alberta.
Oui.
Ça a été confirmé aujourd'hui par M. Carney. Alors lui, il démissionne comme ministre, mais pas comme député libéral.
Donc, il demeure, il n'y aura pas d'élection
dans
son comté.
Non. On va en savoir probablement un peu plus tantôt.
On vous rappelle que c'était l'ancien ministre de l'Environnement, c'est
exactement.
Ça? En tout cas,
exactement.
Ou du moins un ancien...
Il était totalement en désaccord avec la construction de l'oléoduc.
Oui, voilà. C'est bien dit, cher Pierre. Fini les prières de rue et obligation de travailler à visage découvert, entre autres, dans les garderies.
Oui, Québec a introduit dans la loi le principe de neutralité religieuse dans l'espace public. On va écouter Louis Lacroix.
Le projet de loi 9 de Jean-François Roberge passe le cadre éducatif.
Nous englobons maintenant l'espace public.
À commencer par les prières de rue qui devront désormais être autorisées par les municipalités.
Pour moi, c'est de la provocation.
Pour fréquenter une institution publique du CPE à l'université, il faudra avoir le visage découvert, même si le ministre admet que les cas rapportés sont rares.
Bien, s'il n'y en a pas maintenant, il va y en avoir bientôt dans les cégeps, les universités. Est-ce qu'on veut ça?
Et les écoles privées religieuses qui ne se plient pas aux règles à laïcité pourraient perdre leur financement, prévient M. Roberge.
Les écoles qui transmettent la foi pendant les cours devront le faire sans le financement de l'État.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Pablo Rodriguez collabora à une éventuelle enquête de l'UPAC.
On sait que l'UPAC est allé cogner à la porte de Marois Risky hier après-midi pour obtenir sa version des faits, probablement la plus importante, savoir ce qui s'est passé.
Oui, enfin,
et,
il n'est pas trop tôt.
Ben non, et les enquêteurs n'ont toujours pas décidé ce qu'ils vont faire. Monsieur Rodriguez, lui, a encore promis d'aller au fond des choses.
Moi, ce que j'ai dit hier, puis je le répète aussi, s'il y a quelqu'un, où que ce soit, qui a fait quoi que ce soit de pas correct, ben à ce moment-là, l'UPAC décidera de faire une enquête. Nous, on va collaborer. On a encore une fois rien à cacher. Là.
On a repris les négociations avec les médecins.
Enfin, des vraies négociations qui ont repris aujourd'hui.
Des bonnes nouvelles aujourd'hui.
Oui, avec les omnipraticiens. Sauf que les spécialistes ne se sont pas manifestés. Madame Duranceau, la ministre du Conseil du Trésor, évidemment se réjouit de ce développement.
C'est un bon premier pas, mais là, tout le travail est à faire là, dans le détail. Et bon, le premier ministre l'a dit, s'il y a des modifications qui sont requises, on va les faire. Ce qu'on veut, là, c'est apaiser tout ça sur le terrain. C'est compliqué, les gens sont inquiets, les médecins notamment sont inquiets.
Quand je vous dis là, qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui, on a repris, même les gens de l'industrie du bois reprennent espoir.
Ça aussi, c'est une grosse nouvelle. À Saint-Michel-des-Saints, le PDG de la Syrie Saint-Michel, Jean-François Champoux, est ressorti satisfait de la rencontre qu'il a eue hier avec ses collègues de l'industrie et le premier ministre Legault. M. Champoux dit apprécier les efforts du gouvernement du Québec et aussi du Canada, lequel, rappelons-le, a annoncé hier de nouvelles garanties de prêts.
On travaille beaucoup plus là, sur l'efficacité des entreprises, la compétitivité là, face à nos voisins non fédéraux. Qu'est-ce qu'on peut améliorer là, dans nos processus actuels? C'est plein de solutions qui vont régler puis qui vont nous aider à traverser cette crise-là. C'est pas une mesure sur une annonce budgétaire. Là.
On va aller du côté de la gestion des cartes de crédit qui coûtent cher au gouvernement.
Semble-t-il que le gouvernement ne paie pas toujours ses comptes à la fin du mois. Enfin, il a déboursé près de 52 000 en intérêt sur 3 ans.
52 000 $ en intérêt?
Pour des cartes impayées.
Pour des cartes impayées?
En plus. Oh. Alors, c'est le vérificateur général qui déplore évidemment un manque de contrôle et de surveillance.
La gestion des cartes de crédit est problématique dans plusieurs ministères et organismes québécois.
Des contrôles des cartes sont inadéquats.
Pour ce volet de son rapport, le vérificateur général par intérim Alain Fortin a examiné 5 des 153 entités concernées.
Investissement Québec, un CIUS, un centre de services scolaires, puis 2 ministères dont le ministère des Transports.
Il en ressort que des retards de paiement sur les cartes de crédit au sein de 11 ministères ont totalisé 52 000 $ de frais d'intérêt en 3 ans.
La surveillance pour s'assurer de l'efficacité des contrôles mettre en place représente aussi un enjeu.
Comme solution, M. Fortin cite des organismes comme les CIUS ou les centres de services scolaires.
Ceux qui ne payent pas de frais d'intérêt ont des paiements préautorisés.
Surtout considérant l'ampleur des dépenses effectuées par les employés de l'État l'an dernier.
Près de 100 millions de dollars ont été réalisés au moyen de cartes de crédit.
Philippe Rodrigue, Comeau, Cogeco Nouvelles, Québec.
Il y a le Bloc québécois qui s'inquiète de l'absence d'un registre sur les implants mammaires.
Oui, le député de Montcalm, Luc Thériault, affirme qu'un formulaire de consentement uniforme doit être développé afin de bien informer les patients et surtout d'assurer un suivi des implants insérés. Il critique aussi vertement le manque de démarche de Santé Canada dans ce dossier.
Santé Canada n'a aucune excuse. Quand on prétend, comme Santé Canada le fait, qu'on n'a pas assez de données, mais qu'en même temps, on sait qu'il y a des problèmes, on doit agir en fonction du principe de précaution.
Alors voilà, c'est ce qui termine ce bulletin, l'homme à la voix d'or.
Et pour plus de nouvelles.
Et pour plus de nouvelles.
C'est FNJ.net.
Ah ben là, je vous encourage à le faire.
Bonne soirée, Michel.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM. Avec Lanaudière PM.
Nouveau Monde Graphite de Saint-Michel-des-Saints confirme une percée dans des marchés autres que les piles pour les voitures électriques. Ces produits ont été testés par des clients potentiels. Ça augure donc très bien pour l'avenir. Ça, c'est selon la vice-présidente Julie Paquette, à qui François Morin a parlé. On l'écoute.
Monsieur Fortin, vous êtes le président national du regroupement des locataires des terres publiques du Québec. Et là, ben, on a eu une entente avec le gouvernement concernant justement l'ajustement des baux pour l'année qui s'en vient, l'année 2026. C'est une bonne nouvelle.
Oui, on est bien contents. C'est une espèce de cadeau de Noël, je pense, pour nos villégiataires. On a travaillé pendant un an sur ce dossier-là. On a commencé au mois d'avril 2025. C'est incroyable. Mais d'étape en étape, on a réussi à faire avancer les choses, puis avec les fonctionnaires, puis avec les politiciens aussi, pour finalement avoir in extremis, parce que les baux, ils commençaient, les augmentations commençaient au 1er janvier 2026.
Donc justement, là, je voulais qu'on fasse un petit retour en arrière pour que les gens nous comprennent bien. Là, le litige, c'était ça, c'est une hausse qualifiée d'abusive des baux.
OK. En gros, le litige, c'était, on s'adressait strictement aux baux qui sont au niveau minimum. Mais ils sont nombreux au Québec. Il y en a à peu près 15-20 000 au Québec qui sont au niveau minimum. Et ces baux-là, au niveau minimum, on voulait les augmenter de 50 % en pourcentage. C'est pas des gros montants, mais ils sont extrêmement nombreux. J'ai parlé de 15 000, mais il y en a d'autres aussi qui sont entre les montants qu'on voulait augmenter. Ça donne à peu près 25 000 personnes qui auraient pu être touchées. Et cette augmentation-là, dès qu'elle est sortie dans la Gazette officielle au mois de juillet, ben nous, on l'a conseillé comme abusive un peu. Malgré que ce n'était pas des gros montants, mais ça permettait au ministère de ramasser des grosses sommes. Là. Et on a trouvé que, bon, dans le contexte actuel, on est d'accord que les MRC ont besoin de plus d'argent, on est d'accord que notre gouvernement a besoin de plus d'argent, mais on ne peut pas faire ça sur le dos des villégiateurs de façon aussi ponctuelle. On s'attendait plutôt à une augmentation normale de l'IPC, 3 % comme on a vécu depuis les dernières années. Alors ça, c'était totalement nouveau, cibler une partie bien précise des villégiateurs, ceux qui sont au minimum, et il y en a un sacré paquet là, partout. En fait, c'est des gens qui sont dans, qui ont des camps un peu plus éloignés en forêt et qui ont des camps d'une valeur un peu moins grande.
Et des gens qui, comme ça, ont des propriétés, là, effectivement, en secteur plus éloigné, il y en a dans la Nadière. Je ne sais pas si on les a quantifiés, mais il y en a beaucoup dans le coin.
Oui, il y en a. Oui, il y en a un peu partout. Disons, au total, les baux de Lanaudière, c'est peut-être pas là qu'il y en a le plus. Il y en aurait 1400, vous me permettez de consulter un document. Il y en aurait 1400. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans Lanaudière, qui peuvent avoir des baux ailleurs aussi, qui peuvent avoir des baux en Mauricie, ainsi de suite, parce que nos villégiateurs, ils se déplacent beaucoup. Alors, il y en a certainement un tiers de ces gens-là, donc 300, 400, 500, plus ceux qui sont à l'extérieur, qui vont être touchés par la diminution de l'ajustement. On n'a pas encore parlé d'argent, mais en gros, le fameux cadeau de Noël, là, c'est pas des millions, mais c'est à peu près, dépendamment si on a un abri sommaire, un plus petit camp ou un bail normal, entre 100 et 150 $ l'année prochaine, puis ça va, il va y avoir aussi un certain montant l'année d'après, parce que ce qu'on a réussi à faire, c'est d'accepter qu'il va y avoir des ajustements, mais de les échelonner sur 3 ans. C'est ça le gain qu'on a fait. C'est sûr qu'on n'a pas été capable de ramener ça à zéro, là. Tout augmente, ça ici un peu dans la vie, vous le savez comme moi. Mais écoutez, quand je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand on s'en va dans le magasin et que le produit est à 200 $, puis tout à coup, on nous dit qu'on vous le vend 50 $, c'est un méchant beau gain. Ben, c'est le genre de gain qu'on vient de faire à peu près un tiers, si c'est pas plus, des villégiateurs du Québec. On vient de le mettre dans la poche, là, comme on disait ensemble tout à l'heure, 3,4 millions. Alors, c'est pas rien pour les régions périphériques un peu. Tu sais, on parle pas des gens qui ont des beaux dans le bas des pentes au Mont-Tremblant, là. On parle des gens qui ont des petits cambres, qui ont travaillé fort pour avoir ça d'année en année, et des gens qui provoquent des retombées économiques importantes pour les régions périphériques. Fait que nous autres, au RLTP, on considère que c'est un gain vraiment important. Puis c'est la preuve aussi de l'écoute qu'on a de la part, moi, je suis en train de remercier mes politiciens, pour une fois, là, de nous avoir écoutés, parce que pour faire passer cette pilule-là plus lentement, il a fallu monter très haut, je vous dire, dans la hiérarchie politique, là, au ministère, pour pas dire au Conseil des ministres. Et là-dessus, on a eu de l'aide là, de certains ministres particuliers. Je peux nommer maintenant ça, M. Éric Girard, député de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui maintenant est un ministre délégué au développement régional. Alors, il était très sensible au développement régional, ce gars-là.
Mais il en demeure pas moins que même si on a obtenu un gain sur le plus long terme, il aura fallu se mobiliser parce que le gouvernement semble, en tout cas la lecture que j'en fais, avait pris une décision sans consultation.
Ah, je peux vous dire qu'au début, ben, il y avait eu de la consultation, mais je pense que, tu sais, moi je dis toujours, on est passé de... Les gens nous disent toujours, ben, ils vous ont juste informé, ils vous ont juste consulté, ils n'ont pas bougé. Mais on a réussi à passer cette étape-là, puis moi je pense que c'est plutôt de la concertation qu'on a faite, tu sais. Nous, on avait offert un compromis sur le à peu près en fin septembre, début octobre, et c'est sur ce compromis-là que le gouvernement s'est envenu. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu le RLTP, le regroupement des locataires, là, 30 piastres par année seulement pour être membre du regroupement des locataires des terres publiques, s'il n'y avait pas eu ce groupement-là pour sortir dans les journaux, vous nous avez aidé là-dessus, on a travaillé ensemble aussi avec votre média, là. Vous nous avez aidé là-dessus et pour faire comprendre les choses au gouvernement du point de vue des villégiateurs, parce qu'au début, ben, on avait simplement le point de vue, dans le fond, du ministère, des MRC, puis je sais pas qu'ils souffrent d'aveuglement, mais des fois, ils ont besoin de l'opinion des villégiateurs. Quand même, au total, au Québec, il y a 40 000 villégiateurs. C'est incroyable.
Vous aurez compris qu'on parlait à Arthur Fortin, président du regroupement des locataires des terres publiques. Les fameuses terres de la couronne, hein, à une certaine époque, ça coûtait vraiment pas cher. Je pense que ça coûtait 100 $ pour 100 ans ou un truc comme ça. Ou 100 $ par année pour les 100 prochaines années. C'est plus le cas du tout. On paie toutes les années maintenant. Mais il reste que c'est quand même quoi bon.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Pour la 8e édition de la veillée Pas de temps mort, les campagnards partageront la scène avec le prestigieux groupe de temps en temps.
J'aime les filles, toujours à qui ont les fesses dures.
C'est le party du jour de l'an à ne pas manquer dans Lanaudière. Le 30 décembre au Centre culturel Desjardins. Soyez-y! Spectaclejoliette.com pour acheter vos billets.
Si l'un de vos proches semble en détresse ou que vous-même pensez au suicide, de l'aide existe. Communiquez avec le 1-866-APPEL. Parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Devinez quelle chanson de Noël va débuter officiellement cette période le 1er décembre à 7h35 et courez la chance de gagner une souffleuse Cob Cadet d'une valeur de 3 000 $ offerte par les trois frères équipements de Saint-Jacques-de-Montcalm. C'est simple, allez vous inscrire à cfnj.net section concours et soyez à l'écoute lundi 1er décembre à 7h35. Pour participer, il faut être membre de CFNJ. Devenez-le dans l'espace membre à cfnj.net. CFNJ, la vraie radio du temps des fêtes.
Au concert du dimanche à CFNJ, Félix Leclerc.
Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir des choses. Sors-moi donc de la maison.
Le concert du dimanche matin, 7h, à CFNJ.
CFNJ. 40 ans dans Lanaudière.
À CFNJ,
Voici le commentaire de Jacques Plante.
Ah, s'il est un sujet que j'avais hâte d'aborder avec Jacques, c'est bien celui de la carte de crédit des autres, qu'on dépense l'argent des autres.
Oui, ça, c'est pas le nôtre. C'est pas notre carte de crédit. Salut Michel, bonjour tout le monde. Juste avant, j'ai eu une belle grosse journée aujourd'hui. Ça a roulé beaucoup, mais tout a été bien. Et là, en m'en venant à la station, je t'écoutais avec Pierre. Je suis triste, là, le ministre Guilbeault. Non, c'est pas vrai.
C'était pas votre ministre favori?
Tu sais, quand tu changes de capot 4-5 fois, là, à un moment donné...
C'est vrai qu'il était très véhément à l'époque où il gravissait des ponts.
Ouais,
Toutes sortes de...
À installer des pancartes en haut.
Oui.
Il est devenu ministre. On ne lui a pas donné l'environnement au début. Là.
Non, c'était
pas ça du tout.
Non, il fallait qu'il fasse son purgatoire.
Exactement. On le nomme à l'environnement. Après ça, remaniement. Là, il n'est pas content de ce que son boss a décidé. Et,
sur les oléoducs, oui.
Ouais,
on présume que c'est ça.
Ben, j'imagine. Hein. J'imagine que c'est ça, l'entente avec Mme Alberta, là. Hein, Madame Smith.
Madame Alberta.
Madame Smith.
Albertine de son prénom.
Revenons donc à nos moutons carte
donc,
de crédit.
Donc, qu'est-ce que... Parce qu'il s'agissait, je pense, de la première fois, Jacques, qu'on s'interrogeait sur les cartes de crédit, non?
C'est l'EVG du Québec, Vérificateur général du Québec, qui a fait cet outil-là. De mémoire de gars de médias, c'est la première fois que je vois passer un tel rapport.
Ce que je sais, ce que je peux vous dire, Jacques, c'est que le Journal de Québec, dans le cadre d'un dossier sur les dépenses des organismes publics, avait demandé au ministère et aux sociétés d'État et à certaines villes toutes leurs transactions par carte de crédit sur une période donnée. Et l'exercice a bien fonctionné avec les villes, mais la grande majorité des ministères et sociétés d'État qu'ils avaient contactés avaient refusé à ce moment-là de transmettre les données.
Oui, parce que peut-être qu'il n'y en avait pas de données.
De données.
Tu comprends?
Mais il y avait quand même des factures mensuelles.
Il y avait des factures en quelque part.
C'est
mais là, c'est une vérification qui a été faite et c'est des chiffres assez effarants. Pour l'année 2024-25, les 153 ministères et organismes ont réalisé pour près de 100 millions de dollars d'achats par carte de crédit. Et là, quand on commence à faire l'audit de ça, l'EVG, Vérificateur général du Québec, explique avoir analysé les dépenses de cartes de crédit de 5 entités, dont 2 ministères. Pour vous dire ça rapidement, là, on est allé voir du côté d'Investissement Québec, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Vous savez, là, Cain, K.O., les chemins, là, c'est ça, c'est eux autres. Là.
Oui, oui.
Le constat, ben, c'est que les contrôles et la surveillance des cartes de crédit sont inadéquats au sein des entités auditées. L'absence de motifs documenté empêche d'évaluer la pertinence de plusieurs achats et certaines transactions ne sont pas conformes aux règles en rigueur. Ça manque de rigueur.
Mais on n'a pas les règles en question. Là.
On n'a pas les règles en question. Mais tu sais, je me souviens très bien une émission comme on fait cet après-midi. Je suis avec Claude et on parle de la gouverneure du Canada. Tous ceux qui sont passés, les gouverneurs du Canada, ils ont fait des dépenses faramineuses.
Oui.
Arranger l'escalier.
Tu avais la carte de crédit louche.
Bon, c'est ça. Et moi, j'avais dit un commentaire à l'époque à Claude. Oui, c'est vrai que c'est pas intelligent de faire ça, là, tu dépensais. Mais il reste que il y a quelqu'un qui doit valider ça en quelque part. Et je donnais l'exemple. Moi,
doit avoir un chien de garde, c'est ça que vous me dites.
Exactement. Moi, là...
Que tu me dis.
Dans ma job, oui, tu peux me tutoyer.
Oui, oui. C'est vous qui avez ma carte de crédit.
Oui, vous allez dire, tu peux le faire, c'est ta crédit.
Ouais.
Mais moi où je suis aussi au CGE, là, au Carrefour Jeunesse Emploi, j'en ai un compte de dépenses. Hein? Je viens de le déposer tantôt, là, c'est à la fin du mois. Je l'ai envoyé à ma chef d'équipe. Il faut qu'elle le valide. Hein, j'envoie pas mon compte de dépenses, puis le DG, il signe, il dit « c'est beau, c'est Jack ». Il donne ça à contrôleur, puis elle me paye. Il y a une vérification qui est faite.
Ah, c'est pour ça que...
Alors, c'est ça
qui... C'est pour ça que tu as été refusé chez Benny la dernière fois avec moi.
Non, c'est arrangé avec les gens de Benny.
Ah, OK, d'accord.
Là, je viens de vendre le punch. Mais tu sais, c'est ça, il y a des gens qui vérifient. Alors, moi, quand on me donne des chiffres comme ça, mais je dis où sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui se doivent de valider, de demander à ces employés-là qui font des dépenses les pièces justificatives et pourquoi.
Mais ça prend des boss au-dessus d'eux autres, parce que si c'est en dessous, ils oseraient peut-être pas.
Puis là, tout le monde connaît ce qui se passe avec le dossier de la santé. On chicane avec les docteurs, on s'est chicané avec les infirmières, on n'a pas d'argent. Écoute bien ça, là. Les dépenses du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal.
Oui.
Le motif de l'achat n'est pas documenté. On a acheté 10 téléphones iPhone, 3 caméras et 4 carte cadeau.
Oh, ça ressemble à du cadeau de Noël, ça.
Et là, pour certains achats, la pièce justificative détaillée ou la preuve d'approbation était manquante.
Ah, la preuve d'approbation manquante.
Ouais, 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 ouais.
Donc, personne n'a dit oui, mais ça a été acheté quand même.
On a même remarqué que certains détenteurs de cartes de crédit de ministère ont fractionné le prix d'achat auprès d'un même commerçant, question de contourner la limite permise par transaction.
Donc, par exemple, le téléphone vaut 200 $, on l'a payé deux fois 100 $ parce qu'on avait 100 $ de permis.
Ben, moi, ma carte de crédit est à 300, la tienne est à 5 000. C'est sûr que j'aime mieux utiliser la tienne que la mienne.
Ah oui, okay? Mon Dieu. Je sais pas où vous prenez vos informations, mais...
Ben, c'est des chiffres qu'on me donne à la recherche, là, je sais pas.
Bon, mais j'avais le patron des finances.
Mais tu sais, en regardant ça et en pensant à tout le monde, les gens, on est serré actuellement dans beaucoup de secteurs, ça va mal, et on nous sort des choses comme ça, c'est incroyable. Il y a encore cette semaine, j'entendais sur nos ondes, avec notre confrère des nouvelles, François, j'osais avec Hugo Veliquette de la Troquelle. Et Hugo disait, des organismes communautaires, là, hein, disait, on nous dit qu'on nous donne de l'appui, mais avec ce qu'il y a eu comme énoncé économique, ça n'a rien changé. J'imagine que cet après-midi, Hugo, il doit défriser en voyant une nouvelle comme celle-là. Là.
Vous savez, on apprend ça du vérificateur général, Jacques. Mais ça, c'est ce qu'on sait. C'est la pointe de l'iceberg. Il y a tellement de choses que peut-être qu'on ne sait pas.
Qu'on ne sait pas.
Et, ou qu'on se doute. Et puis, de l'autre côté, ben, on coupe les subventions à des gens qui sont des nécessiteux. Je sais pas.
Et là, on dépense à qui mieux. On ne sait pas si c'est pour des raisons de boulot. Ou des
un achat personnel.
Tu sais, tantôt, quand je t'ai parlé des cartes cadeaux, là...
On a même vu, dans le rapport de la VG, on voit qu'il y a des dépenses qui sont faites hors des heures de travail.
Exactement.
Bon, tu peux faire du temps supplémentaire, c'est pas défendu.
Ben oui, j'ai fait 1h30 supplémentaire, j'étais allé à SAQ, puis je regardais pour une bonne bouteille, là. Mais
en plus, il y a des limites financières, vous en avez respecté.
C'est tellement mal géré, Michel, et je vais terminer avec ça. Les délais d'annulation. Si jamais il y a un employé qui part en absence, en congé prolongé, puis qui avait le droit à une carte de crédit, on dit d'une part, pour les départs, quelqu'un qui a sacré le camp, là, ça peut prendre entre 3 et 122 jours avant qu'on rapporte la carte, puis qui doit être désactivée, si tu veux. Et pour une absence prolongée, c'est entre 115 et 259 jours.
C'est pas loin d'une année, ça, 259 jours.
Donc, tu as une carte de crédit. La personne, l'utilisateur, a quitté ou était en absence maladie.
Il a quitté, là. Il pourrait avoir quitté carrément le service.
Oui, et puis là, il est parti, il est ailleurs d'un autre ministère où il a tout simplement démissionné, parti à la retraite, peu importe.
Ça peut prendre jusqu'à 200 jours.
Ça peut prendre, exactement, ça peut prendre tout ce temps-là et la carte est flottante dans le fond. Alors, imagine à ce niveau-là qu'est-ce que ça peut donner.
Jacques, une dernière nouvelle. On a vandalisé la murale qui rend hommage à Carl Tremblay au Centre culturel à Repentigny. C'est dommage. Elle a été nettoyée aujourd'hui et des retouches devront être effectuées au printemps pour la remettre dans son état d'origine. Je comprends pas ces gestes-là. La ville déplore évidemment le geste.
Ben oui. Ça, c'est un peu comme quand on est parti avec la statue de Villeneuve à Berthier.
Mais ça, on peut comprendre qu'il y ait des considérations monétaires si on fait fondre le plomb ou le je sais pas dans quel matériau c'était fait.
Ouais, mais là, tu sais, la statue, elle représente quelque chose, là, tu sais. Je veux dire, ça a beau dire le plomb, mais ceux qui l'ont fait, ils devaient manquer de plomb, hein, quelque part.
Oui, peut-être quelque part. Merci beaucoup, Jacques Plante.
Hey, salut.
Voilà qui termine cette émission. J'aimerais remercier Martin Ducharme, le directeur général du Club de golf de Berthier, Hélène Bégin, économiste experte à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, Arthur Fortin, il est président du regroupement des locataires de terres publiques, François Morin participait à l'émission, Régent Turgeon, Pierre Jubinville et Jacques Plante. Ici Michel Arnois qui vous donne rendez-vous dimanche à 8h pour La Nous Dire et compagnie. Merci à Claude Fournel pour l'opportunité d'animer cette émission. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, de le faire. Dans un instant, La vie dans la Naudière avec Joannie Forêt de Notre-Dame-des-Prairies qui sera suivie du 5 à 7 trad avec notre joueur de guimbarde national, Nicolas Bellemare. Mesdames, messieurs, bonne fin de soirée.